Vous écoutez France Culture.
Merci Pierre Chevalier. Aujourd'hui, les pédagogistes ont-ils fait leur temps ?
Du grain à moudre, t'arraches les gueules.
Brice Couturier. Veut-on vraiment faire réussir tous les élèves en France ? Le constat paraît terrible. 40% des enfants, nous dit-on, sortent du CM2 avec de graves lacunes en français et en mathématiques. 4 élèves sur 10, c'est un pourcentage un peu abstrait, dit comme ça, mais derrière lequel se cachent 300 000 enfants chaque année. Plus grave encore, ces élèves n'ont pratiquement aucune chance de quitter ensuite le système scolaire en maîtrisant vraiment les savoirs fondamentaux. Car ceux qui échouent dans le primaire n'arrivent pas à rattraper leur retard. Telle est du moins la conclusion alarmante du Haut Conseil à l'éducation qui a rendu son rapport avant-hier. Les 9 sages se sont penchés sur le primaire et la maternelle, essentiellement grâce à des études déjà connues, et ils tirent la sonnette d'alarme. Face à ces Cassandres, que peut-on faire ? Faut-il, comme ne manqueront pas de le marteler ceux qu'on qualifie de conservateurs, faut-il réhabiliter le par cœur à l'école ? Imposer, comme l'a fait le ministre Gilles de Robien en janvier 2006, la méthode syllabique, autrement dit un retour au béaba, pour garantir aux enfants du CP et surtout à leurs parents qu'ils sauront lire dès Noël ? Doit-on obliger les enfants à se lever quand l'enseignant entre dans sa classe ? C'était une proposition du candidat Sarkozy, soucieux de rétablir l'autorité des maîtres, être bafoué par l'idéologie, dit-il, de mai 68, faut-il systématiquement faire des dictées de mots tous les jours ? À l'heure où plus de 12 millions d'élèves prennent le chemin des préaux, toutes ces questions sont loin d'être tranchées. Elles donnent même lieu à d'âpres débats portés depuis quelques années par ceux qu'on a nommés les républicains ou les hussards noirs, bref, les champions de l'antipédagogisme, ceux qui s'élèvent contre une école accueillant toujours plus d'élèves, mais tout juste capable, pour reprendre les mots de Jean-Paul Brighelli, l'un de leurs chefs de file, tout juste capable de fabriquer des crétins. Cette institution aurait abandonné toute ambition d'instruire ses élèves, elle ne serait plus qu'une machine à reproduire des inégalités sociales toujours plus criantes. La faute à qui ? Accusent ceux qui se voient comme des résistants. La faute aux pédagogistes, justement, à ces experts, comme Philippe Mérieux, par exemple, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, à ces penseurs de la transmission des savoirs qui auraient oublié à quel point le contenu des enseignements est aussi essentiel. À force de faire confiance aux élèves capables, pensent les pédagogistes, de construire eux-mêmes leurs savoirs, à force de miser sur un enseignement ludique et sans contrainte, on aurait oublié d'enseigner aux enfants le goût de l'effort et des belles lettres. Voilà posé en quelques phrases le décor d'une vraie polémique. Quand 150 000 élèves quittent aujourd'hui l'école sans diplôme et quand 10% seulement des fils d'ouvriers se retrouvent sur les bancs de l'université, il y a urgence à se demander comment faire réussir les élèves.
Alors pour en parler, eh bien, Philippe Mérieux en personne, le chef de file des pédagogistes, ancien directeur de l'Institut National de Recherche Pédagogique, qui continue à enseigner les sciences de l'éducation à l'Université de Lyon et qui sort cette rentrée, deux ouvrages, Pédagogie, le devoir de résister, donc vous réaffirmez vos convictions, ça sort chez ESF Éditeur en septembre, et puis Pourquoi est-ce si difficile d'écrire, chez Bayard Jeunesse. Face à lui, Natacha Polony, qui est journaliste à Marianne et qui est auteur de plusieurs ouvrages consacrés précisément à l'éducation et à ses échecs. Le premier, c'était « Nos enfants gâchés », qui était sous-titré « Petit traité sur la fracture générationnelle chez la Thèse ». Et le suivant, « Monsieur ou Madame le Président, si vous osiez, 15 mesures pour sauver l'école ». Ça vient de sortir, enfin c'est sorti il y a quelques mois, chez Mille et une nuits. Également, Michel Delors, qui est membre du conseil d'administration de la Société mathématique de France et qui est le vice-président du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes.
Et Natacha Polony, on voulait commencer par vous. Effectivement, votre livre s'adressait au candidat à la présidence de la République. À l'époque, il n'avait pas encore été élu. Et vous lui proposiez 15 mesures pour sauver l'école, une école que vous décrivez dans votre ouvrage comme une institution dont le niveau a baissé, dont vous avez une vision que je qualifierais volontiers quand même d'universaliste et d'émancipatrice, puisque vous citez beaucoup Condorcet qui veut qu'on enseigne aux enfants le savoir de base de façon à leur permettre de ne pas tomber sous la coupe d'autrui, dites-vous. Je pense que c'est une citation du philosophe. Mais par ailleurs, votre vision est aussi très élitiste, dans la mesure où vous expliquez que l'école doit fonder les futures élites de la France et qu'aujourd'hui en particulier, à ne jamais sélectionner les élèves, eh bien, elle renvoie au privé le soin de le faire. Alors, que doit faire l'école pour vous? Est-ce qu'elle doit vraiment trier aussi les élèves dès le plus jeune âge de manière à former l'élite de la France?
Trier est un mot terrible. La question n'est pas de trier, la question est de savoir comment on va faire réussir chaque élève dans un domaine où il va exceller. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un problème sur la définition du terme élitisme. Je crois qu'il faut de l'élitisme pour tous. C'est-à-dire faire émerger dans chaque domaine les élites, ceux qui vont tirer vers le haut, que ce soit évidemment les sciences, que ce soit la cuisine, que ce soit l'ébénisterie, n'importe quoi. Mais il y a des élites dans chaque domaine qui vont être des références. Et le problème de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'elle a abandonné cette idée que certains, évidemment, réussissaient mieux que d'autres dans différents domaines et qu'il ne faut pas les brimer sous prétexte d'égalité. Je crois que un des gros problèmes, c'est qu'on confond égalité et égalitarisme, c'est-à-dire qu'on nivelle totalement au nom de l'aide aux plus faibles. On se focalise sur l'échec scolaire sans regarder que le niveau moyen est en train de baisser. Et donc, on a totalement oublié que le rôle de l'école, ça n'est pas seulement de supprimer les inégalités sociales, mais c'est aussi de faire, disons, de former une nation dans son ensemble et dans sa diversité. Donc ça, ça nécessite bien sûr de soutenir chacun dans ça, disons, dans ces domaines de prédilection, de pousser les élèves.
Mais vous les cantonnez à leur domaine de prédilection, parce que mettre sur le même plan peut-être la cuisine et les sciences humaines, comme vous l'avez fait, ou les belles lettres, est-ce que vous cantonnez un enfant qui est bon en cuisine à ne pas apprendre les fondements des mathématiques? J'imagine que
alors,
non.
Alors, est-ce que vraiment j'ai l'air d'avoir dit ça? Au contraire, je pense que si on a formé correctement des enfants à l'école primaire, ils sont après parfaitement aptes à réussir dans n'importe quel domaine, justement. C'est pour ça qu'on va pouvoir ensuite les sélectionner. Mais ça nécessite que l'école primaire ait fait son travail. Et on vivait jusqu'à présent dans une immense escroquerie qui consistait à dire que le maillon faible de l'école, du système scolaire, c'était le collège. C'était très pratique. Pourquoi ? Parce qu'on entendait par là que finalement, ça venait de l'extérieur. Les jeunes deviennent violents au collège. C'est la société qui rentre dans l'école. C'est toujours de la faute de la société. Alors que pour une fois, on ose dire, grâce à ce rapport du HCE, ce que des tas de gens, Michel Delors le sait, disent depuis des années, à savoir que le maillon faible, c'est le primaire, hein, voire même la maternelle. Enfin, il y a beaucoup de gens qui essayent d'expliquer que finalement, si des enfants arrivent au collège et sont totalement incapables de suivre les cours, s'ils sont mal à l'aise à l'école et donc violents parfois, c'est peut-être parce qu'avant, le travail n'a pas été fait. C'est peut-être parce que les fondamentaux ne sont pas là. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas rentrés réellement dans les apprentissages de la lecture, de l'écriture. Ils ne maîtrisent pas la langue. Et donc, ça n'est vraiment pas le collège qui va leur permettre de sortir de là. Donc je crois que le bilan actuellement est très lourd et je crois qu'il faut à un moment donné sortir de l'angélisme. Je crois qu'il faut désespérer Billancourt. Là, il faut dire clairement que ça va mal et que nous avons une responsabilité énorme vis-à-vis des jeunes générations, vis-à-vis des enfants que nous formons actuellement. Et ça n'est pas seulement la faute de la société, du système
médiatique, est-ce la faute des pédagogistes,
etc.
On va peut-être se tourner.
Il y a une responsabilité du système éducatif.
D'accord. Dans son ensemble, Monsieur Mérieux, alors d'autres disent, peut-être Natacha Polony ne vient pas de le dire pour l'instant, mais d'autres disent que c'est dû aussi à l'emprise des pédagogistes sur le système scolaire en général. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité dans ce qu'on décrit aujourd'hui comme une baisse de niveau ou une faillite du système?
À titre personnel, moi, je ne me sens pas coupable. Je participe, comme tout le monde, à la réflexion sur l'éducation. J'ai mis ma pierre ici ou là dans un certain nombre d'institutions et dans un certain nombre de réformes. Mais jamais, me semble-t-il, dans le sens du laisser-aller, jamais dans le sens du laxisme, jamais dans le sens de l'abandon des fondamentaux. jamais vraiment dans le sens que vient de décrire Natacha Polony. Alors, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'une société doit permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, mais je ne cesse de dire, comme elle, qu'il faut cesser de confondre l'excellence et l'élite parisienne. Hein. L'excellence, elle est partout. Elle est chez les menuisiers, elle est chez les boulangers, elle est aussi, bien sûr, chez les énarques, mais elle n'est pas que chez les énarques. Et c'est insupportable en France de voir l'élite parisienne se prendre pour l'excellence et retoquer d'un revers de manche tout ce qui ne font pas partie d'elle. Donc je suis d'accord là-dessus. Simplement, je crois que quand on parle d'école, il faut distinguer un tout petit peu, ne serait-ce que parce qu'il y a des éléments qui relèvent de la constitution juridique. Il y a l'école obligatoire, dans laquelle tous les enfants doivent acquérir ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de la citoyenneté, et dans laquelle il me semble qu'il peut y avoir des activités dévolues en fonction des goûts de chacun, mais dans laquelle il y a un programme commun, des savoirs communs qui font société, qui permettent effectivement aux gens de vivre ensemble. Et puis après, au-delà de la troisième, il y a effectivement des choix qui se font. Des choix qui sont très importants et qui vont permettre de se spécialiser dans les lycées technologiques, professionnels ou généraux, ou bien d'aller dans ce qu'on appelle l'apprentissage ou la vie active. J'ajoute quand même à ce sujet, là je partage assez bien les points de vue de Natacha Polony, c'est que même pour ceux qui vont dans les lycées dits professionnels, il est extrêmement important de renforcer le niveau de culture générale par rapport à ce qu'il est actuellement. Dans les lycées professionnels aujourd'hui, la culture générale est complètement laissée, on ne peut pas dire à l'abandon, mais laissé dans une situation de très grande difficulté. Il n'y a pas de philosophie pour les enseignants de lycée professionnel, ce qui veut dire que la France dit à une partie de ses jeunes, à près de 30% d'entre eux, au fond, la réflexion sur l'amour, la mort, le devenir, le destin, ça ne vous concerne pas parce que vous allez faire un métier manuel. Ce qui est quand même un message particulièrement dommageable que la France envoie à sa jeunesse. Un dernier mot sur le rapport école primaire-collège. Qu'il y ait une responsabilité de l'école primaire dans les difficultés des élèves, cela va de soi. Si on regarde quand même les chiffres d'un peu près, au-delà des chiffres de 2004 sur lesquels s'appuie le Haut Conseil de l'éducation qui vient de rendre son rapport, on s'aperçoit qu'il y a une frange d'élèves qui finit l'école primaire dans une situation de grande difficulté. C'est vrai.
On va dire 15%.
15%. Dit-on, ouais, c'est ça. Il y a une frange d'élèves, à peu près aussi 15%, qui est pratiquement sauvée. Et essentiellement des filles d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus tendance à oublier que les élèves, en tant que quantité, ça n'existe pas vraiment en France, que les filles sont à peu près 30 à 40% au-dessus des garçons dans beaucoup de choses, et il faudrait un jour s'interroger sur cette inégalité très sexuée des résultats scolaires. Bon, il y a des filles qui vont s'en sortir assez bien, mais il y a ce qu'on pourrait appeler un ensemble d'élèves moyens. Cet ensemble d'élèves moyens qui est de l'ordre de 60%, et pour eux, l'entrée au collège est décisive. Sur ces élèves moyens, une grande partie va surnager et une grande partie va s'effondrer. Une partie va s'effondrer. Ce qui est le plus prescriptif dans les études aujourd'hui, c'est le bulletin de milieu de cinquième. C'est-à-dire que globalement, ça n'est pas le bulletin de fin de CM2, mais celui du milieu de cinquième qui nous dit si l'élève aura le bac ou pas. Et s'il aura une chance de faire des études supérieures. Quand en milieu de cinquième, un enfant ne sait pas gérer son emploi du temps, que toutes ses fiches photocopiées, il les met dans son cartable, il les sort directement le samedi pour les mettre à la poubelle. Qui, quand il sort de français, il ne sait pas s'il va en maths ou en éducation physique. Qui n'a pas pris l'habitude de réviser correctement ses leçons. Qui n'a pas appris ce que nous appelons son métier d'élève. Quand en milieu de cinquième, un élève ne sait pas faire ça, il aura beaucoup, beaucoup de mal à s'en sortir. En revanche, quand il a appris à faire ça et que globalement, les 18 premiers mois du collège lui ont permis d'apprendre à se débrouiller dans le secondaire, il s'en sort. Donc, exonérer complètement le collège de toute responsabilité me paraît grave. C'est vrai que quand même, un certain nombre d'enfants arrivent au collège sortant d'un enseignement assez cadré où ils ont un instituteur ou une institutrice, et qui sont envoyés dans un hall de gare dans lequel ils courent d'une classe à l'autre sans avoir de lieu et d'espace dans lequel se poser, sans avoir la possibilité de comprendre des exigences extrêmement hétéroclites, avec une multitude d'enseignants qui ont parfois des relations à lui extrêmement différentes, et qu'il faut aussi que le collège prenne sa part de la lutte contre l'échec et les difficultés.
J'aurais voulu qu'on revienne peut-être quand même aussi au contenu et à la pédagogie, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on vous attaque, vous et collectif, hein. Je ne parle pas de vous.
Oui, parce que je ne suis ni chef de file ni pédagogiste, contrairement à ce qu'a dit Brice Couturier. Je veux bien être pédagogue, mais pédagogiste, certainement pas.
Donc, comme les pédagogues ou pédagogistes, c'est vrai que c'est difficile de trouver un mot adéquat. Mais disons, les gens qui, quand même, se reconnaissent derrière ce que vous avez écrit, sont souvent accusés, par exemple, alors vous notamment, de dire que l'enseignant ne doit pas transmettre un cours fondé sur des savoirs particulièrement élaborés, mais doit, par exemple, animer une classe. Alors, vous auriez écrit que l'enseignant doit être avant tout un animateur. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, mais j'ai jamais écrit que l'enseignant devait être avant tout un animateur. J'ai écrit, et je ne cesse de dire, qu'il y a dans l'activité de la classe une dimension qui relève de l'organisation des apprentissages, de la gestion du groupe, et que cette dimension, on ne peut pas la passer par pertes et profits, ne serait-ce que parce que tout le monde le sait, le savant le plus élevé, face à une classe qu'il ne sait pas comment prendre, face à des élèves turbulents, il peut être mis en difficulté et en échec. Je dis là des banalités, c'est même pitoyable d'être obligé de rappeler des trivialités comme ça. Donc je pense qu'il faut à la fois des niveaux de savoir extrêmement élevés, et pour ma part, je me réjouis d'ailleurs que l'exigence ait été augmentée dans ce domaine-là, et je souhaite qu'elle le soit encore, mais je pense que les niveaux de savoir élevés n'exonèrent pas les enseignants d'une réflexion pédagogique. Bon,
mais je crois qu'il faudrait quand même revenir sur ce débat pédagogue ou pédagogiste, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et le problème, c'est qu'une partie des penseurs de la pédagogie s'est attribué ce terme de pédagogue et de pédagogie. Je veux dire, n'importe quel professeur dans sa classe pratique la pédagogie. Et moi, qui suis considérée comme réactionnaire parce que je défends, en effet, le par cœur, je défends les... Par vous, entre autres, j'ai le souvenir d'un débat avec vous qui donnait à peu près ça. Eh bien, je suis navrée, mais je pratique aussi la pédagogie et j'invente tous les jours des nouvelles façons d'enseigner en fonction de la classe que j'ai en face de moi. Et je crois que ce qui est très grave, c'est de laisser croire qu'il y aurait d'un côté les gens qui réfléchissent à leur manière d'enseigner, qui s'adaptent à cette nouveauté du public, au fait que les élèves sont moins concentrés, etc. Et puis de l'autre côté, des gens qui défendraient ce qu'on appelle les bonnes vieilles méthodes. Alors moi, à part un ministre de l'Éducation nationale, j'ai jamais entendu personne prôner des bonnes vieilles méthodes, la question n'est pas là. Mais voilà, il y aurait donc les méchants qui seraient là en train de revenir en arrière. Et d'ailleurs, c'est frappant dans votre livre, Philippe Mérieux, Pédagogie, le devoir de résister. Déjà, ce qui me frappe, c'est toujours cette façon de laisser entendre qu'il y aurait une minorité de pédagogues face à une majorité qui ne bouge pas, conservatrice, etc. Or, tout de même, vous avez été conseiller des ministres, vous êtes
jamais,
depuis 20
ans... conseiller, non.
Qui avez inspiré la loi d'orientation.
Chargé de mission.
Ne jouons pas sur les mots. Ne jouons pas sur les mots et surtout ne reniez pas votre œuvre. Tout de même, ça fait 20 ans que vous êtes dans les couloirs de la rue de Grenelle et que vous êtes un des inspirateurs des politiques de l'éducation nationale. Alors évidemment, le résultat n'est pas brillant, donc forcément, ça n'aide pas à reconnaître son bébé. Mais le fait est là. C'est-à-dire que cette façon de se positionné comme rebelle et résistant m'étonne un peu, premièrement. Et deuxièmement, vraiment, il y a une manière d'expliquer chez vous que finalement, les adversaires de vos idées seraient forcément des gens qui choisissent le passé contre le présent et qui sont incapables d'imaginer autre chose que le retour au passé. Mais je crois que personne n'a jamais prôné le retour au passé, en tout cas certainement pas moi. Ça, alors là, pour une raison très simple, c'est que l'école de la Troisième République était inégalitaire, était sans doute, enfin, endoctrinait les élèves et personne ne souhaite revenir à cela. La question, ça n'est pas ça. La question, c'est justement de sortir de cette fausse opposition entre présent et retour au passé pour dire il y a différents présents et différents avenirs possibles. Et il faut savoir les imaginer. Et donc, non, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et on peut essayer de réfléchir à une autre méthode. Et je voulais juste citer, vous commencez votre livre par une citation d'Alain, donc le philosophe, disant « On dit que les nouvelles générations seront difficiles à gouverner. Je l'espère bien ». Superbe citation. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que je pense que les futures générations qui auront été formées par l'école d'aujourd'hui seront très faciles à gouverner. Et que c'est ça qui m'inquiète.
Alors, je partage totalement votre inquiétude, mais je voudrais juste très brièvement vous dire que le manichéisme que vous avez évoqué, je le récuse tout autant. Je récuse de la même manière le manichéisme qui consisterait à opposer les vrais professeurs qui enseignent vraiment des contenus et ceux qui se livreraient à des gesticulations non directives de l'autre côté.
Non, mais ce manichéisme-là, je ne l'ai jamais rencontré. Ah, la question n'est
pas
là.
Moi, je l'ai très souvent rencontré. Et je peux vous dire que dans le livre de Jean-Paul Brighelli, par exemple, mais dans une multitude d'autres publications, ceux qui sont appelés les pédagogistes sont présentés comme des gens qui ont renié tous les savoirs et renoncé à tout véritable apprentissage. Ce qui, en aucun cas, n'est ni mon cas, ni le cas de ceux qui travaillent en pédagogie d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs pédagogies. Vous avez raison de dire que tous les enseignants sont pédagogues et je le reconnais bien volontiers. Mais de la même manière que tous les enseignants sont pédagogues, il faut reconnaître aussi qu'il existe une recherche, qu'il existe des travaux, qu'il existe aussi une tradition. Moi, je me veux un homme du passé. Moi, je me veux vraiment un homme du passé. Je me revendique de la tradition pédagogique. Je me revendique de Ferdinand Buisson. Je me revendique effectivement, à travers Ferdinand Buisson, d'un homme qui disait que l'accès direct au texte vaut mieux que la parole du clerc, parce que ça fait des gens moins faciles à gouverner. Et j'assume parfaitement d'avoir installé les travaux personnels encadrés, que tout le monde a critiqué comme étant un abandon des savoirs, parce que précisément, les travaux personnels encadrés, c'est une démarche dans laquelle les élèves vont se confronter avec des textes et vont produire eux-mêmes des textes, et qu'elle est parfaitement fidèle à la tradition de Ferdinand Buisson, à celle de Brunhold et à celle de toute une série de pédagogues de l'école de la République.
Oui, mais qui avaient formé les élèves avant, ce qui leur permettait, quand ils arrivaient vers l'âge de 15 ans, de produire en effet ce genre de travaux. Ce n'est pas tout à fait le cas
aujourd'hui. Nous formons les élèves en même temps, et c'est toujours cette idée des préliminaires qui est, me semble-t-il, une vraie pierre d'achoppement. Moi, je suis partisan de former à l'autonomie et à la contrainte, non pas d'une manière différenciée, mais en même temps dans le travail. Je pense qu'il n'y a pas d'abord une opération de dressage où les élèves seraient soumis à une forme d'injonction d'exercice, et puis après l'autonomie, la recherche, la réflexion, il y a tout au long de l'enfant et adapté à son âge, dès la maternelle, une manière de découvrir l'autonomie et de découvrir en même temps les règles auxquelles il faut se plier. Et quand nous avons mis en place les travaux personnels encadrés, le rapport au texte que nous souhaitions mettre en place, et qui a été l'objet des foudres, de tous les gens qui nous attaquaient et qui ont obtenu notre peau, puisque les travaux personnels encadrés ont de fait été très largement supprimés.
Alors, ils ont été supprimés pour des raisons économiques.
Pour des raisons économiques, mais ce n'est pas les raisons économiques que vous mettiez en avant, ni ce qu'on appelle les antipédagogues. C'était parce que aller travailler directement sur les textes, c'était contraire à la transmission du savoir. Moi, je dis aller travailler directement sur les textes, c'est conforme parfaitement à la tradition de l'école de la République.
Mais bien entendu.
Alors, M. Chapoulini, un petit mot là-dessus.
Oui, très brièvement. Ce que je reproche, moi, aux travaux personnels encadrés, c'est qu'en fait, une fois de plus, on est dans un monde irréel et idyllique où on part du principe que des gamins de 15 ans vont pouvoir faire le travail de chercheurs et d'universitaires. Alors, je suis d'accord avec vous que la contrainte et l'autonomie s'apprennent en même temps. Le problème, c'est qu'on se retrouve face à des élèves qui, justement, n'ont pas appris les bases, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris la rigueur, ils n'ont pas appris à lire un texte, ils n'ont pas appris souvent à le comprendre, à décrypter les sources. Et donc, on se retrouve avec des élèves qui, tout simplement, vont sur Internet, ne savent pas si le texte qu'ils ont trouvé est un texte d'un auteur référencé ou si c'est leur voisin qui a écrit cela. Et ils sont incapables de comprendre la différence.
C'est aux enseignants de le leur montrer.
Non, mais bien sûr. Sauf que ça se prépare très tôt. Et je pense qu'on ne peut pas lâcher dans la nature des gamins sans leur avoir donné tout simplement quelques aides, sans leur avoir donné les armes. Et c'est cela qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ça qui était reproché aux travaux personnels encadrés.
Mais la très sérieuse inspection générale a dit que c'était l'apprentissage de la rigueur, les travaux personnels encadrés.
Alors, l'inspection générale n'est pas forcément
que les élèves ont envie de rigueur.
On aura compris que Philippe Mérieux n'est pas pédagogiste et que Natacha Polony n'est pas réactionnaire. Et même, absolument, on aura vu s'échanger entre eux ces labels. Mais je voudrais donner un petit peu la parole ici à Michel Delors pour lui poser une question assez générale, mais pour recadrer le débat sur quelque chose de beaucoup plus général. C'est le fait que le problème des profs aujourd'hui, je l'ai été pas mal, c'est qu'on semble exiger d'eux et de l'école des missions contradictoires. D'une part, transmettre des savoirs, une culture, former des citoyens. D'autre part, s'adapter au monde tel qu'on nous dit qu'il est, tel qu'on nous dit qu'il va. Alors, on voit bien que le monde tel qu'il va, c'est d'une part des métiers qui existent, des savoir-faire et des qualifications extrêmement précises. Et puis, sur le plan culturel, ce sont les industries du divertissement. C'est aussi Internet et son pseudo-savoir non hiérarchisé. Et il y a forcément culture, forcément hiatus, heurts, contradiction entre d'une part la culture classique, celle des humanités, et puis la sous-culture audiovisuelle ou la culture non hiérarchisée d'Internet. Et puis de l'autre côté, entre l'esprit critique, la citoyenneté, et puis l'adaptation aux emplois tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils ne seront pas forcément demain. Est-ce qu'on peut fixer vraiment aux enseignants et à l'école des objectifs aussi contradictoires que cette adaptation au monde tel qu'il va et puis le maintien, diront les réactionnaires, de la transmission des de la culture, de l'esprit critique, de la citoyenneté? Comment gérer?
Pourquoi diront les réactionnaires? Moi, je partage
vous aussi
cette opinion.
Ah bon. Donc, vous dites bien, les labels s'échangent beaucoup entre Natacha Polony et vous, Philippe Mérieux. Mais qu'en pensez-vous vous-même, Michel Delors?
Je pense d'abord que c'est intéressant la période que nous vivons, parce que quand les labels s'échangent, ça prouve qu'il y a des débats forts. Et ça ne peut que me réjouir. La deuxième chose, c'est que vous posez une question vraiment très compliquée à laquelle je n'ai pas tout à fait les moyens de répondre. Ce que je peux dire, c'est que l'école doit avoir un rôle scolaire qui n'est pas suffisant. Mais vu, et en particulier l'école primaire, et elle peut avoir aussi un rôle d'insertion sociale, un rôle de réalisation du bonheur, mais à mon avis, ce sont des rôles secondaires. Et elle doit surtout réussir son rôle scolaire. Or, son rôle scolaire en primaire, elle ne le réussit pas du tout. Et je pense qu'il faut d'abord poser cette question-là, qui est la question de la réussite en primaire sur les questions des savoirs de base. Alors, ça ne veut pas dire que je pense qu'on doit réduire l'enseignement à ces savoirs de base. Et je suis même un peu connu dans le milieu que je fréquente pour dire justement qu'un des grands dangers actuels quand on pense aux savoirs de base, c'est de dire, sous prétexte que les savoirs de base sont très mal maîtrisés maintenant, et je trouve que le rapport du HCE n'est pas assez sévère de ce point de vue-là, de penser qu'il faut, il va falloir réduire l'enseignement aux savoirs de base. Mais ils sont à un tel stade de non-enseignement que je pense qu'il faut vraiment centrer le travail là-dessus. Et donc je suis donc vice-président du GRIP. Le GRIP, c'est le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes.
Que vous avez fondé en 2003, c'est
ça ? Qu'on a fondé en 2003, qui vient à l'origine de pas mal de choses, mais notamment de la pétition contre les programmes du primaire de 2002. Et on a pensé qu'il était absolument important de réfléchir aux progressions dans chaque matière et aux rapports de chaque matière. On ne dit pas que c'est toutes les questions, mais que tant que celles-là ne seront pas traitées, il faut absolument les traiter. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que les programmes de 2002 non seulement sont insuffisants sur le niveau demandé, mais qu'en plus ils sont contradictoires et qu'on ne peut pas enseigner dans de tels programmes. Et le GRIP a été une des premières associations qui s'est proposée de quoi faire, et bien de dire, on va demander l'autorisation officielle à la DGESCO pour mettre en place un réseau d'écoles primaires qui s'appelle SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer, et pour essayer de le mettre en place. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début, il y a une quinzaine d'années, quand je disais, par exemple, moi, il est tout à fait possible et c'est utile d'enseigner les quatre opérations ensemble
addition, soustraction, multiplication, division.
Au CP, c'est extrêmement important. D'abord parce que c'est le calcul intuitif de Ferdinand Buisson.
Et c'était la proposition de Célestin Freinet aussi.
Voilà, tout à fait. Mais tout à fait. J'étais un ami très proche d'Henri Fortier, qui m'a défendu au sein du mouvement Freinet. Donc je connais très bien le mouvement Freinet. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un petit point. Nous défendons des programmes, mais à l'intérieur du GRIP et à l'intérieur du réseau SLEC, toutes les méthodes sont admises. Mais on veut s'en tenir au programme. Et donc, ce que nous voulons, c'est mettre en place ce réseau d'écoles. Pourquoi ? Je disais, parce qu'il y a, une dizaine d'années, quand je disais il y a les quatre opérations CP, ce serait important, on me disait, vous êtes un menteur, monsieur Delors. Et donc des pédagogues et des inspecteurs. Vous êtes un menteur. Il a fallu que, premièrement, je photocopie les programmes, parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Les programmes des années 1860 à 1970 n'étaient plus disponibles à l'INRP.
1900, non, vous voulez dire
À 1970, n'étaient plus disponibles. Et c'est sur mon site, j'étais obligé de les publier. Il y avait, ce travail historique n'était pas fait. Et on disait, donc,
il est fait maintenant, il est même sur le site de l'INRP.
Non, il y a Ferdinand Buisson, mais les programmes complets n'y sont toujours pas, à ma connaissance. Ils y sont,
non,
à mon avis, ils n'y sont pas complets. Et il a fallu que j'amène, en plus, parce qu'on me disait, bon, c'est dans les programmes, mais personne ne les fait. Il a fallu que j'amène mes cahiers personnels de CP. Alors on m'a dit, mais on le faisait parce que c'était dans une école de haut niveau. Manque de peau, c'était à Brive, l'école des Chapelis, où il y avait je ne sais pas combien de nationalités. Et donc... Qu'est-ce qui se passait ? On nous a traités de menteurs. Eh bien, on s'est dit, la seule chose à faire, c'est de montrer qu'on peut réaliser ces enseignements en demandant une autorisation.
Vous voulez dire qu'il y a 100 ans, on enseignait les quatre opérations conjointement et qu'aujourd'hui, on ne le fait plus ?
Jusqu'en 70, et à partir de la réforme des maths modernes en 70,
effectivement, on l'a supprimé.
Ce qui a été supprimé par la réforme des maths modernes, c'est la suppression de l'enseignement des quatre opérations. En CP, il n'y avait plus que numération
et
addition.
Cela dit, c'est vrai que, ça nous amène, c'est une parfaite transition vers un peu la deuxième partie de l'émission. J'aurais voulu qu'on se penche un peu sur les réformes de ces derniers mois. Cela dit, attendez, juste, je termine. C'est vrai que c'est ce que prône aujourd'hui l'Académie des sciences, justement, ce retour aux quatre opérations des LCP, et ce qu'a demandé aussi à l'époque Gilles de Robien aux enseignants du primaire. Je vous laisse continuer, Michel.
Alors je voudrais simplement revenir sur ces questions de réforme et de passé. Je voudrais citer ce que disait Antoine Prost en 92, et qui prouve qu'il faut s'intéresser au passé. Il ne faut pas rester dans le passé, il faut s'intéresser au passé. Donc en 92, il fait l'analyse de l'évolution des programmes et du système scolaire en France. Et il dit, les classes de 6e comptent 12% d'enfants d'ouvriers au sortir de la guerre. En 59, les enfants d'ouvriers représentent 19,4% des 6e des lycées et 36,7% des 6e des cours complémentaires. Les évolutions enregistrées jusqu'en 63-64 sont à mettre au compte du système scolaire antérieur aux réformes. Puis il donne d'autres citations qui vont dans le même style. Et il dit, c'est l'indice d'une incontestable tendance. La démocratisation est en marche. C'est précisément au moment où intervient la réforme des collèges et les réformes de 70 en général. Ni les experts gouvernementaux dont il faisait partie d'ailleurs à l'époque. Ni les sociologues, ni les syndicats enseignants ne saisissaient qu'une démocratisation effective était en train de se produire. Donc, on a eu un arrêt de la démocratisation effective et la plus grande partie de la démocratisation effective a été faite par, disons, avec tous les guillemets que vous voulez, l'ancien système, que d'ailleurs je ne défends pas complètement puisque j'étais élève dans les années 67-68 et j'ai eu de sérieux ennuis comme élève, donc je ne le défends pas. Mais on peut constater qu'il y a eu une démocratisation très sérieuse. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi cette démocratisation s'est arrêtée.
Et c'est inversé. J'ai cette citation du Haut Conseil de l'évaluation de l'école qui dit « L'école n'a pas réussi à corriger les inégalités, mais elle les a amplifiées.
Oui, »
Pour aller dans votre sens, je cite un chiffre, c'est qu'il y a, les enfants d'ouvriers sont 3 fois plus nombreux que les enfants de cadre en 6e et qu'arrivés arrivé en première, la proportion non seulement s'inverse, mais il y a deux fois moins d'enfants d'ouvriers en terminale scientifique que deux fois moins d'enfants d'ouvriers que deux fois moins de cadres. Donc, je veux dire, on assiste très nettement au cours de ces 20 dernières années à un renversement d'une tendance à la démocratisation qui avait lieu auparavant, des 30-40 dernières années, si vous voulez. Mais enfin, en tous les cas, il est sûr qu'aujourd'hui, l'école a un rôle de plus en plus d'amplification des inégalités sociales alors qu'elle avait mission pour les corriger. Donc on se retourne vers les pédagogistes en leur disant « Ne serait-ce pas votre faute ? C'est ce que vous êtes en train de faire, non ?»
Alors moi, non, ce que je voudrais dire, d'abord si je dis 30-40 ans, c'est parce que ça correspond au moment où il y a eu un changement fondamental des programmes. Parce qu'effectivement, aussi bien en mathématiques avec les maths modernes, dont on a effacé les côtés les plus grossiers, mais il y a certaines thèses de fond qui persistent et qui sont extrêmement négatifs du point de vue pédagogique. Et si on regarde l'enseignement du français, il y a aussi cette espèce de mélange entre la linguistique structurale et par exemple, la grammaire dite classique, disons, je vais très rapidement, sur lesquelles il n'y a pas de positions précises qui ont été prises jusqu'à maintenant, y compris le rapport de M. Bentolila ne prend pas plus précisément position là-dessus. Or, ce sont des questions qui se posent pour tous les enseignants et qui se pose pour tous les parents. Parce que quand on discute véritablement avec des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, quelles sont les questions qu'ils posent ? Eh bien, ils font travailler leur enfant sur un sujet. Eh bien, ils posent le problème de leur progression. Ils disent, mais pour faire ça, il n'a pas fait ça. Comment faire ? Comment vous expliqueriez ça ? Et le GRIPS et SLEC, on s'est mis sur ce qui nous semble le plus important, c'est répondre sur la question du contenu des enseignements aux questions des parents et des enseignants.
Natacha Polony, vous sembliez vouloir réagir peut-être à cette démocratisation de l'école qui fait défaut.
Oui, enfin, c'est pire que cela. C'est qu'en effet, comme le rappelait Brice Couturier, l'école est devenue totalement inégalitaire. Et je pense que Michel Delors avait raison tout à l'heure en disant que l'école doit d'abord réussir sa mission scolaire. Je tombais l'autre jour sur un vieux livre de Jean-François Revel de 1984 où il évoquait la question scolaire et le fameux rapport Legrand. Et où il expliquait que l'école était en train de mourir du fait qu'on lui avait assigné une nouvelle mission qui était de supprimer les inégalités sociales. Et déjà en 1984, il s'inquiétait de ce renversement formidable parce que, évidemment, à force de vouloir à tout prix supprimer les inégalités sociales, eh bien, on a tendance à raboter totalement tout le
niveau d'exigence,
le génie de chacun, l'intelligence de chacun. Et je crois que tant qu'on n'assignera pas tout simplement à l'école cette mission déjà extrêmement complexe, qui est en effet de transmettre les savoirs et de les transmettre de façon cohérente, je crois que la question des programmes est bien sûr la plus importante, eh bien on se privera de tous les moyens de faire réussir tous les élèves sur cette fameuse mission que s'assigne chaque ministre et qu'à chaque fois il échoue à réaliser parce que justement, on n'attaque jamais le vrai problème.
Et en particulier François Fillon, puisque c'était l'une des missions de sa loi de 2005,
oui,
qui a instauré le socle commun. Alors peut-être là-dessus un petit mot, avant que vous vouliez dire autre chose, Philippe Mérieux. Mais par exemple, sur le socle commun, c'est quand même très intéressant. Est-ce que ça fait partie, effectivement, est-ce qu'il suffit de donner à tous les élèves les fondamentaux ? Est-ce d'abord la première mission de l'école ou a-t-elle aussi une autre mission ?
Donc, je voudrais d'abord, si vous me permettez, rectifier quelques éléments. D'une part, moi, je ne me sens ni solidaire de la grammaire structurale, ni solidaire des mathématiques modernes. Et là, il y a une confusion qu'il faudrait, une bonne fois pour toutes, ne plus faire entre la recherche pédagogique et, on va dire, une certaine technocratie didacticienne qui s'est développée depuis une vingtaine d'années et contre laquelle je combats autant que Monsieur Delors ou Madame Polony.
Pas sur le même terrain.
Le même terrain, mais je les combats autant. Parce que la question qui me sépare des didacticiens, c'est la question du sujet. Moi, je considère qu'on ne peut pas, avec une mécanique didactique aussi bien huilée soit-il, faire apprendre un élève parce qu'on évacue ce qui est le ressort même de l'apprentissage, à savoir la formation de son intentionnalité, c'est-à-dire la prise en compte du sujet. Donc cette espèce de didactique qui s'est développée d'une manière excessive depuis 30 ans et qui, dans la tête du grand public, a pris la place de la pédagogie, qui apparaît comme étant celle qui jargonne, mais vous ne trouverez jamais dans mes livres d'éloges de la didactique. Je fais un travail qui s'inscrit dans la tradition des pédagogues et je me revendique bien plus de Pestalozzi et de Korczak que des didacticiens, y compris de ceux de l'Institut National de Recherche Pédagogique que j'ai moi-même dirigé. Donc je ne me sens absolument pas compromis ni par les mathématiques modernes, ni par la grammaire structurale. J'ai été au Conseil National des Programmes, je me suis opposé à la grammaire structurale. J'ai défendu l'introduction du travail sur les œuvres et sur les grandes œuvres, en particulier pendant toute ma carrière. J'ai défendu l'idée de l'histoire chronologique et j'ai écrit des livres là-dessus. Et tout ça, je l'ai signé et je le resignerai aujourd'hui. Donc, ne mélangeons pas les choses. Alors, deuxièmement, effectivement, Jean-François Revel critique l'égalitarisme en 1984. Vous trouveriez sous la plume de Brunetière en 1884 exactement le même discours. Parce que derrière un certain nombre d'intellectuels, il y a au fond une inquiétude devant ce qu'on va dire l'émergence du laïos, l'émergence du peuple qui va faire baisser le niveau et qui va, s'il entre massivement dans l'école, faire baisser le niveau général de cette école. Quel est l'enjeu ? Et là, Natacha Polony a parfaitement raison. L'enjeu, c'est que nous avons fait, comme le dit très bien Antoine Prost, nous avons démocratisé l'accès sans démocratiser la réussite. Et nous avons d'ailleurs produit de la rancœur. Parce que quand on démocratise l'accès, on dit aux gens, allez-y, vous allez réussir. Et on fabrique des exclus de l'intérieur, qui sont bien plus rancuniers que les exclus de l'extérieur. Moi, j'étais d'une ville minière extrêmement populaire. Eh bien, mes camarades de classe, quand j'étais petit, n'ont pas accédé. Moi, j'avais la chance d'avoir un père contremaître. Mes camarades de classe qui avaient un père mineur n'ont pas accédé au petit lycée. Mais ils ont transformé cette exclusion en militantisme politique et syndical. Bon. Ils ont dit, le capitalisme nous exclut, on va se battre pour rentrer. Leurs fils, eux, sont rentrés au collège. Et on leur a dit, allez-y, rentrez. Vous avez des chances de réussir. Mais ils se sont cassés la gueule. Donc là, ces gens-là se sont sentis complètement floués. Ils ont eu le sentiment qu'on leur vendait du vent. Alors maintenant, il faut quand même, je m'excuse, revenir d'un tout petit peu sur... Quels sont les indices? Parce que personne n'a la solution miracle quand même. Ni Madame Polony, ni Monsieur Delors, ni moi-même, ni le ministre. Quels sont les indices qui pourraient nous permettre de comprendre ce phénomène? Pourquoi la démocratisation de l'accès n'a pas donné lieu à la démocratisation de la réussite? Alors regardons autour de nos frontières. Quels sont les pays qui ont le mieux réussi à démocratiser la réussite en démocratisant l'accès? Ce sont les pays qui ont mis en place un système moins global, moins collectif, plus individualisé, avec moins de systèmes de type redoublement et filière, avec moins de pression évaluative. C'est l'exemple des pays nordiques, par exemple de la Finlande, mais pas seulement, je ne vais pas idéaliser la Finlande,
la Suède,
son système
Norvège.
N'est pas transférable ici. Mais nous voyons bien que ce qui a rendu difficile la démocratisation de la réussite, c'est le manque de suivi, d'accompagnement, de travail au coude à coude avec les élèves. Et c'est ce travail-là qui fait défaut encore aujourd'hui. Et qui fait défaut, bien sûr, pour les élèves qui n'ont pas la chance d'avoir des répétiteurs, mais qui fait défaut aussi dans la classe même, où malheureusement, on est encore, dans un certain nombre de cas, un peu trop sur le registre... Tous ensemble, tous la même chose, et si vous ne comprenez pas, vous êtes exclus. Alors, je termine et puis je vous laisserai. Ce qui m'inquiète, pourquoi ça m'inquiète? C'est pas, Natacha Polony a parlé de retour au passé. Moi, ce n'est pas le retour au passé qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que des gens de bonne foi, il est impossible, le fleuve ne passe jamais deux fois sous le même pont, c'est que des gens de bonne foi, et moi je ne critique absolument pas la bonne foi de mes adversaires, je les crédite toujours de la bonne foi, mais que des gens de bonne foi puissent faire le lit de quelque chose qui est quand même en train de se profiler, et qui est l'idée qu'au fond, une société qui miserait plutôt sur la contention que sur l'éducation serait plus efficace. La contention chimique, par exemple. Allez, donnons de la ritaline aux hyperactifs. En France, je vous promets que si demain, on fait un test pour dépister les élèves hyperactifs, comme au Canada, il y en aura 30%. Et qu'il y aura 30% de gamins soignés à la ritaline. La contention chimique, ça marquera à fond la caisse. Prenons de la contention juridique. Allez, majorité à 16 ans. Prenons la contention administrative. Prenons de la contention autoritariste, prenons de la contention sous forme d'exclusion. Nous avons une lame de fond face aux problèmes réels qui sont les nôtres et que je ne nie pas. Une lame de fond sociale qui est celle toujours du choix de la classification, de l'exclusion, de la contention contre l'éducation. Alors on me dira, la prévention, l'éducation, ça fait son temps, ça marche pas. Moi je prétends, mais j'ai peut-être tort, que ces gens qui nous disent ça sont revenus de tout sans jamais y être allés. Que la prévention, on l'a jamais vraiment faite, qu'on l'a jamais vraiment prise au sérieux. Et qu'on a des gens qui nous disent « oui, ça n'a pas marché ». Mais essayons-le vraiment quand même. Et moi, en tout cas, je ne souhaite pas que des gens qui défendent les savoirs, comme moi, puissent servir de caution à des gens qui, en réalité, ne défendent pas les savoirs, mais défendent Orwell. C'est-à-dire défendre une société de la contention, du tri et du fléchage, de l'étiquetage et de la sélection précoce et systématique.
Natacha Polony, vous reconnaissez-vous dans cette description?
Ah non, je ne dis pas qu'elle doit.
Non, je lui pose la question.
Non, je pense que le problème, c'est que, en effet, nous sommes autour de cette table, je pense tous, assez inquiets de voir la médicalisation de l'échec scolaire, de l'échec éducatif. Sauf que c'est à force d'avoir renoncé à éduquer et à donner des règles strictes qu'on se retrouve retrouve avec des enfants qui sont maintenant jugés ingérables et qu'on va aller traiter avec des médicaments, ce qui me semble la pire des solutions. Donc on a finalement un effet de deuxième lame. C'est-à-dire que maintenant, on va se retrouver en effet dans cette société coercitive que vous décrivez, parce qu'avant, il y a eu un renoncement à une éducation, disons, rigoureuse et qui nécessite un petit peu la capacité de dire non, la capacité de marquer des limites. Et de même, quand vous parlez de la différence entre didactique et pédagogie, je crois que c'est un peu pareil. On a l'effet deuxième lame, c'est-à-dire qu'on a d'abord les didacticiens qui passent et qui mettent en place des programmes absolument aberrants et bon, pour ce qui est des lettres, qui est le domaine que je connais le mieux, qui ont de quoi dégoûter n'importe quel fanatique de littérature. Et puis ensuite, dans la mesure où on a bien compliqué les choses, eh bien, on se retrouve avec ce discours qui part d'excellentes intentions, mais qui, à mon avis, est dramatique, qui consiste à dire « il ne faut rien imposer à l'enfant, il faut toujours lui faire comprendre l'intérêt de ce qu'on veut lui apprendre, donc attendre qu'il veuille bien comprendre cela, donc éventuellement utiliser une manière un peu ludique de lui apprendre les choses. » Et donc, évidemment, on se retrouve en échec complet, bien sûr. Et je crois que le problème de la démocratisation, c'est qu'elle est arrivée en même temps que tout cela. Et donc, on a renoncé à apprendre aux élèves des classes populaires ce qu'on apprenait avant aux élèves des classes favorisées.
Et
maintenant, eh bien, c'est l'ensemble du système, malgré souvent la résistance de beaucoup de profs. C'est ça que je crois. Je crois que s'il n'y avait pas beaucoup d'enseignants qui se battent individuellement, le système se serait déjà effondré. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on a toujours tendance à considérer finalement que le résultat actuel, qui est catastrophique, vient du fait qu'il y a eu démocratisation, sous-entendu. Les gamins de milieux défavorisés, en gros, c'est curieux, on n'arrive pas à leur apprendre des choses. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas essayé, tout simplement.
Il y a eu insuffisance de démocratisation.
Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le mot de démocratisation lui-même qui renvoie en réalité à deux réalités très différentes? Il y a la démocratisation dans l'esprit des Lumières ou de l'école de la Troisième République qui tendait à universaliser les œuvres de l'esprit qui avaient été réservées pendant longtemps à un public extrêmement élitiste et bourgeois et à faire en sorte que la totalité d'une classe d'âge parviennent à une culture scientifique, littéraire et humaniste qui était autrefois, encore une fois, l'apanage d'une minorité. Et puis, il y a un autre sens du mot démocratisation qui est peut-être celui qui a été dominant pendant les 20 dernières années et dont peut-être on est en train de sortir, c'est de renoncer à cette culture universelle bourgeoise, soit est-ce qu'elle est bourgeoise, soit est-ce qu'elle est élitiste, qu'elle est blanche, qu'elle est dominante, et de faire le jeu de la sous-culture, ce que je disais tout à l'heure, qui est celle des médias, qui est celle de la rue, la culture urbaine, etc., et de la répandre, de la faire entrer à l'école sous prétexte que celle-là, elle est réellement populaire et que les enfants sont en phase avec elle et qu'elle évite la fameuse connivence qu'on redoute entre les profs qui sont très bien formés et puis les élèves bourgeois. Et à mon sens, c'était une absurdité d'autant plus évidente que quand on connaît un petit peu les classes dirigeantes de ce pays, celles qui ont vraiment de l'argent, leur mépris de la culture est absolument total
et de plus en plus
évident que sorti de la presse People et des médias grand public les plus médiocres type Starac, elle ne s'intéresse absolument pas à la culture. La culture aujourd'hui, elle n'est plus portée que par les profs, pour le milieu des profs, qui sont les seuls aujourd'hui à faire vivre un peu la culture et les seuls peut-être à la diffuser encore un peu auprès de leurs enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu ce préjugé bourdivin à l'égard de... Est-ce qu'il n'a pas été partagé par un ensemble qui s'appelle les pédagogistes et qui ont fait en sorte que cette culture ne se retrouve plus à l'école que dans quelques grands lycées fréquentés par des fils de profs?
Michel Delors voulait réagir avant Philippe.
Oui, sur l'histoire de la démocratisation, ce que j'ai cité de Proust, il dit bien qu'il y avait un processus de démocratisation et qu'il a été arrêté. Donc, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais le débat est de savoir comment il a été arrêté et quels ont été ce qui a été mis en place à la place de ce processus de démocratisation. Ce qui me gêne un petit peu dans le rapport...
C'est la consumérisation.
Non, non. Ce qui me gêne un petit peu, on pourra en discuter, mais on ne va pas résumer comme ça. Ce qui me gêne un peu dans le rapport du HCE, c'est qu'effectivement, il constate qu'il y a une certaine faiblesse. À mon avis, c'est nettement insuffisant, la constatation. Mais ce qui donne comme moyen de combattre cette faiblesse, c'est justement ce qui a servi à faire disparaître la démocratisation. Donc, il faudrait, à mon avis, en discuter très sérieusement. Je dis encore une fois, on ne va pas en discuter aujourd'hui. Si on veut voir quelle était exactement la démocratisation, démocratisation, puisqu'on en parle, je veux simplement donner quelques chiffres. La scolarisation dans le premier cycle secondaire et les cours complémentaires, en 1945, c'est 20,5%, et en 1962, c'est 55%. Et en plus...
Donc ça commence
l'endroit. Voilà. Donc ça veut dire, tous les débats qu'on entend actuellement en disant, il y a 30-40 ans, c'était qu'une minorité qui allait en sixième, c'est faux. Les déclarations du secrétaire général de la CFDT, les déclarations de membres du SNUIPP, sont des déclarations fausses.
Il y a une confusion sur les dates. Je suis d'accord avec vous, il faudra préciser les dates sur ces questions-là. 59, scolarité obligatoire à 16 ans, mais qui ne passe dans les faits que 2 ans à 3 ans après. Et effectivement, 68 est la première année où tous les élèves de 16 ans sont en 3e. Donc les années que vous dites sont des années de transition.
Mais je m'intéresse à la période où il n'y avait pas les nouvelles réformes. Et là, je dis... Effectivement, et c'est ce que dit Prost, la majorité de la démocratisation a été faite avant les réformes. Si on prend
et
par exemple.
Les réformes ont fait faire un bas en arrière.
Et
au
alors,
de la
justement, parce que si on parle de massification,
non, parce que ces réformes prenaient pour prétexte précisément la démocratisation, donc elles ont été infidèles à leur propre objectif. Elles ont échoué par rapport à leur objectif.
Non, mais qu'elles aient échoué, personne ne le nie.
Ah, c'est intéressant de vous entendre le dire.
Qu'elles aient échoué au regard. Non, qu'elles aient échoué au regard de l'ambition de la France. Par rapport à sa jeunesse, c'est absolument évident.
Permettez.
Nous sommes loin de la réalisation de cette ambition. Elles n'ont pas nécessairement fait reculer les choses.
Ah, au niveau de l'égalité, c'est une évidence.
Non, mais attendez.
Et au niveau du niveau aussi,
nous sommes obligés d'aller vraiment très vite là-dessus.
Oui.
Dire, la dénonciation de la culture bourgeoise comme violence symbolique, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mon premier livre dans l'école mode d'emploi, je dénonce déjà cela en expliquant que c'est absolument une imposture. Et j'ai eu moi-même une polémique avec Françoise Dolto, qui avait écrit dans la préface d'un de ses ouvrages « Tout bon élève est un névrosé » et à qui j'avais répondu « Vous ne pouvez pas dire ça. La plupart des gens de milieux modestes ont très envie que leurs enfants soient bons élèves. Et à cet égard, c'est un mépris pour eux que de les traiter ainsi. » Nous avons quand même été un certain nombre à résister à la fois à une psychanalyse un peu dévoyée et au bourdivisme de bazar. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un accroissement quantitatif absolument prodigieux. Dans les années 64 à 68, on inaugurait en France un collège par jour ouvrable. On a fait de la gestion. On a tassé les gens dans des classes. On a fait monter les instits dans le secondaire. On a pris comme instits des gens qui étaient en général à bac moins 1, à bac plus 1.
Ce qui pose la question très importante de la formation.
On a fait du quantitatif. On a fait du quantitatif. Ce quantitatif ne s'est pas avéré efficace à terme. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas les réformes en soi qui ont plombé les choses. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Je voudrais juste dire deux choses à propos des travaux que je mène, même si ce n'est pas l'objet. Si on regarde le niveau des élèves, moi je m'intéresse plus particulièrement, comme Natacha Polony, à la question de la maîtrise de la langue. Bon. La maîtrise de la langue à la fin de l'école primaire. Nous sommes à peu près tous d'accord aujourd'hui, plus personne ne dit qu'il n'y a pas de baisse de niveau. Les travaux de Daniel Manès...
Mais il était temps.
Non mais attendez,
intéressant,
mais non, mais attendez. Les travaux de Daniel Manès, que j'ai publiés dans ma collection chez ESF, Orthographe à qui la faute, montrent d'une manière extrêmement claire qu'il y a une baisse du niveau en orthographe, que cette baisse est presque entièrement absorbée par l'orthographe grammaticale et non pas par l'orthographe d'usage, et que cette baisse en orthographe est d'ailleurs corrélée à une baisse générale de l'orthographe dans la société, puisque même des adultes de 50 ans qui connaissent parfaitement la règle par cœur se mettent à confondre la terminaison et accent aigu ER. Donc il y a plus globalement un problème du rapport de la France à sa norme linguistique dans lequel l'école est partie prenante. Si on regarde ça, moi je suis d'accord, il faut travailler sur la place de la langue. Je dirais à Michel Delors que les programmes de 2002, pour la première fois, renforcent la place du français.
Donc vous ne voulez pas signer ma pétition ? Vous êtes d'accord avec les programmes de 2002 ?
Non, je dis que les programmes...
Vous voulez savoir, c'est tout.
Je ne vais pas signer, contre-signer à 100% les programmes de 2002. Je n'ai pas la compétence dans toutes les disciplines pour en juger. Je dis que dans le domaine qui est le mien, la maîtrise de la langue, ils renforcent le temps passé à la maîtrise de la langue et ils introduisent les œuvres littéraires comme obligatoires, ce qui n'était pas le cas avant 2002. Que donc,
alors,
pour
attention.
Moi, il y a deux avancées. Et je voudrais dire enfin une dernière chose par rapport à ce que disait Brice Couturier. Sur quoi, moi, je travaille actuellement ? Sur quelque chose qui me paraît extrêmement important, qui est le phénomène de l'attention. J'ai refait passer des tests que Claparède avait fait passer à des enfants de 10 ans en 1930, 31 et 32 sur l'attention. Là où en 1930, 31 et 32, un enfant de 10 ans avait 15 minutes d'attention sur un travail de type puzzle, par exemple, un enfant de 10 ans aujourd'hui ne dépasse jamais les 6 minutes d'attention. Ce qui veut dire qu'en amont même des apprentissages scolaires, nous assistons à une espèce d'éclatement d'un certain nombre de capacités de mobilisation psychologique et psychique qui sont dues quand même, pour une grande part, à l'environnement. Que l'école ait sa part de responsabilité. Que l'école ait sa part de responsabilité, c'est évident.
Mais il faut la définir, cette part.
Non, quelle est sa part de responsabilité,
c'est évident. Philippe Mérieux, juste une petite chose. Sur cette question de l'attention, ça n'est pas seulement la faute de l'environnement, même si je suis d'accord avec vous, des gamins qui regardent la télévision avant d'aller à l'école, c'est une catastrophe. Mais il se trouve que... Que j'ai des souvenirs, moi, de mon école primaire, où quand il y avait du bruit dans la classe, on était tous bras croisés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un bruit. Je ne crois pas que le travail en atelier, aujourd'hui, en atelier divers, avec les enfants qui se parlent entre eux, qui travaillent entre eux, favorise vraiment la concentration. Ce sont des petits détails comme ça qui s'accumulent.
Mais l'éducation artistique pour laquelle je milite et qui a été exclue du socle commun, puisque vous parliez du socle commun tout à l'heure, le théâtre, la musique, les chorales, etc.,
une autre fois, Philippe,
sont des occasions extraordinaires
qu'on va en rester
de renforcer l'attention.
Là. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un renoncement à une certaine discipline qui empêche les enfants même d'apprendre. Je crois que c'est ça qui est grave.
Merci pour cette conclusion. Nous avons donc parlé aujourd'hui de cette grande question. Veut-on encore faire réussir tous les élèves ? On voit que c'est sujet à polémique. Philippe Mérieux, vous étiez notre invité. Michel Delors, professeur de mathématiques, membre du conseil d'administration de la Société de mathématiques de France. Et Natacha Polony, journaliste à Marianne et auteur notamment de « Madame ou Monsieur le Président, si vous osiez 15 mesures pour sauver l'école aux mille et une nuits ».
Demain, nous serons à l'université d'été du MEDEF. Nous y entendrons Catherine Chouard, la DRH du groupe Elior, Hakim El Karoui, directeur adjoint de la Banque Rothschild, Gabriel de Nomasi, directeur de Paritech, et Xavier Emmanueli, le président fondateur du SAMU de Paris. C'était Du grain à moudre, une émission présentée par Tara Schlegel et Brice Couturier, réalisée par Malika Mesgache à la technique, Thomas Coudreuse, équipe de production, Francesca Fossati, Mathieu Sarda et Nathalie Lempereur.
Et dans quelques instants, à 17h55, vous allez retrouver la chronique d'Albert Jacquard. À 18h, le journal présenté aujourd'hui par Florence Sturm, suivi ensuite bien sûr de Travaux publics. Nous rejoindrons Jean Lebrun à El Sour pour parler d'anglo-saxonie.